Chapitre 70. 26 décembre 2017. Je suis allongée sur la banquette arrière. Je regarde les nuages à travers la vitre du toit. Des gouttes de pluie s'écrasent, semblent s'accrocher quelques secondes et se laissent emporter par le vent. Étienne est assis à la place du mort. Nina roule doucement, ce qui semble l'agacer, mais il ne dit rien. Nina et moi n'ignorons pas qu'il ronge son frein. Il jette des regards furtifs et désespérés au compteur qui affiche 110 km/h alors que nous sommes sur l'autoroute. Nous nous sommes mis d'accord en quittant la Comelle. Nina et moi à tour de rôle au volant et arrêt tous les 200 km pour boire un café et manger une bricole. J'avais dit OK pour que vous m'accompagniez à condition que ce soit moi qui conduise. Je ne suis pas impotent, j'ai un cancer. Nina a capitulé. 200 km chacun. On divise le voyage par trois. On s'est aussi mis d'accord pour le choix de la radio. Ce sera RTL2, un mélange de pop-rock qui accorde plus ou moins nos violons. Sur la terre chaque nuit, avec toi, partout à ton bras, je sais tout de ta vie. Dieu m'a dit. Mon ami, viens, je sais tout de toi. C'est sur les dernières notes de Karma Girls, une chanson d'Indochine, que je me décide à parler. Je suis retournée voir Pi. Ma phrase jetée dans l'habitacle fait l'effet d'une bombe. Nina freine brusquement, je suis déséquilibrée et me rattrape à son appui-tête. Elle se rabat sur la droite entre deux camions. Étienne, à qui je trouve une mine de papier mâché, coupe la radio en me dévisageant dans le rétroviseur. « Quand ?» me demande Nina sans quitter la route des yeux. « Quand je suis revenue m'installer à la Comelle. »
« Où ?»«
Chez lui. » « Il a quel âge maintenant ?»« Je sais pas, environ 80. » « Pourquoi t'as fait ça ?» me questionne Étienne. J'avais besoin de croiser son regard avec mes yeux d'adulte. J'ai sonné à sa porte, c'est lui qui m'a ouvert. Il m'a tout de suite reconnu. Il n'a pas été capable d'articuler un mot. On s'est regardé, peut-être une ou deux minutes, en silence, et je lui ai collé Blanc d'Espagne dans les mains. Il l'a pris, mutique. Je suis remontée dans ma voiture. Quand j'ai relevé la tête en démarrant, il avait refermé sa porte. Ça t'a fait quoi de le revoir ? J'ai scellé quelque chose. Définitivement, ça m'a soulagée. Tu crois qu'il l'a lu ? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui ça m'est égal. J'ai 10 ans. Je suis en CM2. Je viens de rencontrer mes deux amis d'enfance, un garçon et une fille. Grâce à eux, je ne me sens plus seule. Je les aime. Pour les autres, je suis un maigrichon sans intérêt. Ils ignorent tous que j'ai une fille cachée à l'intérieur. Un secret de famille à moi toute seule. Comme la bâtarde de quelqu'un, celle que l'on planque au sous-sol, qui doit passer par des portes et des couloirs dérobés pour ne jamais croiser le regard de personne. L'illégitime, répudiée par les religions et l'état civil, qui ne sera pas baptisée et ne recevra aucune extrême onction. Enfin, celle qui ne sera jamais nommée. Nul ne prononcera mon véritable prénom. Plus tard, je me trouverai. Je m'appellerai. Je fais des listes. Élodie, Anna, Marianne, Lisa, Angèle, Virginie. J'ai 10 ans. Mes deux amis et moi sommes inséparables. Parfois, je voudrais leur dire qui je suis. J'ai cette fille au bord des lèvres, mais je n'ose pas. Je ravale. J'ai peur qu'ils me rejettent, me jugent. Nous, c'est trois ou rien. C'est trois ou la solitude. S'ils me chassaient, je retomberais dans l'exil, celui que je vivais avant mon déménagement. Quand les autres me trouvaient bizarre, dans le silence. La timidité est un sac dans lequel on fourre tout pour ne pas se poser de questions. Dans la classe, je passe des heures à observer le dos de mon ami, ses épaules, ses longs cheveux noirs, sa nuque lorsqu'elle se fait des nattes ou les relève d'un geste de la main. Un matin, elle porte une barrette neuve. Quand elle prend place à son bureau et qu'elle se penche pour sortir quelque chose de son cartable, j'aperçois un petit papillon rouge à pois blancs au-dessus de son oreille. Je suis tellement troublée par ce morceau de tissu accroché à sa chevelure que j'en oublie tout, même où je me trouve. Je n'écoute plus l'instituteur. Entre mes doigts, Mon stylo est mort. Je suis envoûtée par cette barrette. De temps en temps, mon ami la replace. J'ai envie de la lui enlever, de la lui prendre des mains. Juste avant la récréation, le papillon tombe sur le carrelage de la classe sans faire de bruit, comme si le sol était recouvert de poudreuse. L'instituteur se penche sur ma feuille blanche, me pince le bras. « Tu rêves ou quoi ?» Et me retient en classe pour copier la leçon inscrite au tableau. On appelle maître ce monstre à lunettes engoncé dans une blouse grise en coton râpeux. C'est un serpent qui se glisse entre les bureaux sournoisement. Tout le monde quitte la classe, sauf moi et le petit martyr du maître. Je suis au deuxième rang, lui au premier. Le serpent a quitté la salle avec les autres élèves que j'entends rire et parler fort à l'extérieur. J'imagine leur jeu et reviens au silence de la classe vide. J'observe quelques secondes le cancre penché sur sa feuille, sa langue se promenant sur sa lèvre inférieure, comme perdu. Écrire lui demande un effort considérable. Moi, je lève la tête, lis une phrase, la recopie sans difficulté sur une feuille double à grands carreaux. Mais je ne cesse de regarder le papillon sur le sol, presque à mes pieds. Je me retourne plusieurs fois. Personne. L'autre élève m'ignore. Lorsqu'on est persécuté en permanence, on en oublie les autres autour de soi. Je sais de quoi je parle. Avant mes deux amis, on me regardait comme une faute d'orthographe. Je finis par me pencher et ramasser la barrette. C'est une petite pince collée à un morceau de satin, de ces minuscules épingles à cheveux qui retiennent quelques mèches. Je l'ouvre délicatement et la place au-dessus de mon oreille. Savoir. Comprendre ce que cela provoque de la porter, la sentir dans mes cheveux. Je touche longuement la tache comme s'il s'agissait d'un minuscule animal qui venait de se poser sur moi. Je suis déçue. Je réalise qu'être une fille ne réside pas dans le fait de porter un accessoire. Je découvre que c'est plus complexe, sans doute plus profond. Je suis perdue dans mes pensées quand je croise deux yeux injectés de haine. Le serpent est revenu dans la classe en silence. J'arrache le papillon. Le satin se décolle, emportant quelques cheveux. L'instituteur ne dit rien. J'ai honte et je suis fière à la fois. Je ne baisse pas les yeux, le fixe. Je suis couverte de haine, la sienne. Ses petits yeux crachent leur mépris dans les miens. À cet instant, le maître change de souffre-douleur. Désormais, ce sera moi.